Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2012 et vous remercie sincèrement et très chaleureusement de la fidélité avec laquelle vous nous écoutez. Pour ce nouveau numéro d'Anormal et le premier de l'année 2012, je suis heureuse d'accueillir M. Jacques Samaru, directeur général et président par intérim de l'école. Bonjour et meilleurs vœux à vous.
Bonjour, meilleurs vœux à vous et j'en profite pour présenter mes meilleurs vœux à toute la communauté de l'ENS, en particulier la communauté des élèves et des étudiants.
Alors, le mois de janvier invite traditionnellement donc à adresser les vœux à notre entourage, mais c'est aussi, il me semble, un moment idéal pour faire un point sur le premier semestre qui se termine et d'envisager les nouveaux projets qui nous occuperont tout au long de l'année 2012. Avant donc de se plonger dans la frénésie de 2012, j'aimerais revenir dans un ordre plus ou moins chronologique sur les 6 derniers mois de 2011. Est-ce que je me trompe si je dis qu'ils ont été un petit peu agités ?
Non, vous ne vous trompez pas, mais l'agitation est toujours un signe de vie ardente. Donc, voyons quelle agitation vous voulez parler.
Eh bien alors, pour commencer, il y a eu ce mail de Monsieur Faron, daté du 26 août. Je finissais à peine mes bagages pour Lyon. Et donc, je reçois, comme tous.ens, le mail de M. Faron dans lequel il explique les raisons de son départ pour le cabinet de M. Laurent Wauquiez, qui est donc ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En fait, pour être encore plus exact, il y a eu, avant ce mail, un arrêté, celui du 19 juillet 2011, qui vous nomme donc président et directeur général par intérim. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu trop dur de cumuler les deux fonctions ? Et surtout, vous êtes nommé pour 8 mois. Que va-t-il se passer ensuite ?
Bon, alors, tout d'abord, je pense que le fait que M. Olivier Faron ait été appelé auprès du ministre, c'est quand même une reconnaissance, d'une certaine façon, de l'ENS et des compétences qui se sont développées dans cette école. Je rappelle que ça n'est pas la première fois et que le précédent directeur de l'ENS Sciences, à l'époque, avait aussi été appelé à la direction de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on doit voir ça comme une reconnaissance de notre établissement. Alors deuxièmement, est-ce que c'est pas trop dur ? Oui, bien sûr, je ne vais pas cacher que ça fait beaucoup de travail en plus, mais bon, c'est quand même un domaine que je connais bien, je connais très bien la maison. Nous avons toujours eu un travail extrêmement étroit et suivi entre nous, entre Olivier Faron et moi-même, ce qui fait que j'étais quand même au courant de la plupart des affaires en cours, et donc ça m'a permis de prendre cette fonction sans aucun problème, même si c'est effectivement, je le cache pas, ça crée beaucoup de travail supplémentaire, mais enfin on est là pour ça aussi.
Concrètement, comment est-ce qu'on va faire ensuite ? Enfin, là, je suppose que M. Faron n'est pas non plus totalement absent. Comme vous le dites, il y a une vraie co-gestion qui était précédente à sa nomination, qui est aujourd'hui un petit peu, on le sent, la manière dont l'école est gérée. Comment est-ce que ça va se passer ensuite ?
Bon, de toute façon, vous faisiez référence à l'arrêté de nomination de Olivier Faron à la direction adjointe de cabinet. Si vous regardez effectivement cet arrêté, c'est pour une période à durée déterminée. C'était pour 8 mois. Et donc, on sait très bien qu'à l'issue de cette période, Olivier Faron retrouvera sa fonction de directeur général. Et c'est pour ça que je me suis engagé à le remplacer, pour qu'il n'y ait absolument aucune interruption dans le fonctionnement et dans le bon fonctionnement de l'école. Alors c'est vrai que Olivier Faron, malgré ses charges actuelles, se tient au courant de ce qu'il se passe. Et c'est tout à fait normal, puisque lui aussi a souci que la continuité de fonctionnement de cette école soit assurée. Et donc, quand il reviendra, il retrouvera sa fonction de directeur général dans les meilleures conditions.
Alors reprenons donc après ce mail du 26 août. Donc la rentrée se passe dans un ordre des plus traditionnels, réunions et autres pots d'accueil s'enchaînent. Et une fois cette agitation terminée, l'ENS accueille fin octobre le Todai Forum. Et je crois que c'est le premier grand événement de cette année 2011-2012. En quoi justement était-ce un événement pour cette école et est-ce que ça a été une réussite ?
Alors c'est effectivement, ça a été un très très grand événement. Il faut rappeler ce que c'est que le Todai Forum. Donc, c'est un forum que tient l'Université de Tokyo, donc, dont je rappelle que c'est quand même une des meilleures universités au monde. Et si on veut s'en référer aux classements officiels, elle est quand même classée dans les top 30 des meilleures universités au monde. Cette université a pour tradition de tenir tous les 2 ans un forum dans un grand centre universitaire étranger. Je cite à titre de référence, ça a été Harvard, ça a été Stanford, ça a été Londres, et j'en passe d'autres tout aussi bonnes. Quand l'université de Tokyo, avec laquelle nous entretenons des liens très étroits de collaboration scientifique, nous a évoqué la possibilité de tenir ce forum à l'ENS, il est évident que nous avons répondu immédiatement présent. Alors, je tiens à souligner que l'ENS, c'est elle qui effectivement a amené l'université de Tokyo, mais elle a souhaité ne pas jouer seule dans cette reconnaissance, et donc l'événement a été porté avec l'université de Lyon et donc tous les autres établissements universitaire. Maintenant, si vous me demandez si ça a été un succès, ça a été un franc succès. Je crois que nos collègues japonais ont été extrêmement impressionnés par le potentiel scientifique, l'activité scientifique, et nous avons eu l'excellente idée d'associer ce forum à plusieurs grands événements culturels, expositions de divers ordres. Je tiens à souligner aussi une participation des étudiants. Il y a eu un mini-forum étudiant entre les étudiants de l'Université de Tokyo et les étudiants de l'Université de Lyon. Donc en tout point, ça a été un succès. Et pourquoi je peux dire maintenant que ça a été un succès ? Parce que nous avons eu un retour du président de l'Université de Tokyo, le président Hamada, qui s'est déclaré extrêmement favorable à la poursuite et au renforcement de notre collaboration avec l'Université de Tokyo. Et il est en train d'ailleurs de le faire savoir très officiellement, puisqu'il va nous soutenir très officiellement dans une grande entreprise qui est conduite sur le site actuel, qui est le projet d'initiative d'excellence, dont nous parlerons peut-être un petit peu plus loin.
Oui, je crois aussi. Mais alors, pour rester sur l'Université de Tokyo, vous dites que c'est une des plus grandes universités au monde. En quoi et quels exemples précis peuvent inspirer l'ENS ? Qu'est-ce qui nous manque ? Et en quoi c'est un modèle pour nous ?
Alors, ce n'est pas forcément qu'est-ce qui nous manque, parce que cette université, elle est aussi très multidisciplinaire. Peut-être, elle n'a pas le caractère autant transdisciplinaire que celui que nous sommes en train d'installer ici dans l'ENS. Et je dois dire que ça a beaucoup intéressé nos collègues japonais de voir les manières par lesquelles nous arrivons à associer sciences humaines et sociales, littérature et sciences exactes.
Donc pour ensuite avancer un petit peu dans l'année, à l'automne, une partie du personnel du site Descartes a exercé son droit de grève. Alors après un conflit qui marque les esprits, parce que c'est vrai que c'est assez rare, je crois même que c'est le premier qui se tient sur le site de Lyon, donc des assemblées générales dans le forum ou juste à côté. Le problème a été résolu, puisque la grève a cessé. Alors comment il a été résolu ?
Bon, tout d'abord, quand il y a un événement de ce genre, c'est toujours qu'il y a au départ une situation qu'on peut qualifier de grave. Je pense que les personnels qui ont conduit ce mouvement sont des personnels qui remplissent des tâches souvent ingrates dans l'école, qui d'ailleurs ne bénéficient pas toujours de la reconnaissance qui leur est due de la part de tous les acteurs de cette école.
Oui, mais là, plus particulièrement, les mots d'ordre étaient sur l'organisation du temps de travail.
Oui.
C'était des choses vraiment autour du travail.
Effectivement. Mais enfin, ce que je suis en train de dire aussi, il y a une question de reconnaissance. On s'est aperçu effectivement qu'il y avait eu des dérives dans l'organisation du travail. Peut-être qu'on nous n'avions pas suffisamment perçu ou qu'on ne nous avait pas suffisamment fait remonter à temps. Donc nous avons eu un dialogue extrêmement nourri avec tous ces personnels. Je tiens à dire qu'ils nous ont proposé des évolutions. Et je crois qu'on peut dire que nous avons pratiquement suivi toutes les propositions qu'ils nous ont faites. Donc les choses sont rentrées dans l'ordre dès que, effectivement, nous avons pu mettre en application et trouver un accord sur les propositions qu'ils nous ont faites.
Donc par exemple, autour de leur revendication qui était la surcharge de travail par rapport au nombre de personnel, est-ce que vous allez embaucher du nouveau personnel ?
Alors, je tiens à souligner que ce n'était pas forcément de la surcharge dans l'absolu. C'était un problème d'organisation, à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce que vous savez que ce sont des personnels qui ont des horaires un petit peu décalés, parce que d'abord, ils doivent passer avant tout le monde le matin. C'est aussi une organisation dans l'espace, parce que ces personnels se voyaient affectés des lieux bien spécifiques. Et la grosse difficulté, c'est effectivement, quand un personnel est manquant, comment est-ce que l'on fait ? Ça serait peut-être compliqué de rentrer dans les explications, mais on a trouvé effectivement une nouvelle organisation, à la fois dans le temps et dans l'espace, et qui, semble-t-il, a satisfait ces personnels. Vous savez, on n'est pas dans une possibilité... Alors, si on a augmenté le nombre de ces personnels, mais dans une limite qui est celle que nous pouvons réaliser compte tenu de nos moyens, mais effectivement, nous avons renforcé l'équipe d'entretien pour effectivement, je pense, pallier peut-être à quelques surcharges, mais je répète, surtout des surcharges qui sont liées à la difficulté de l'organisation dans l'espace.
Mais, excusez-moi d'insister sur ce point, mais parce que nous, parmi les bruits qui ont couru autour de la résolution de ce problème, il a été évoqué que ce n'était pas, par exemple, des contrats stables qui avaient été proposés aux nouvelles personnes qui viendraient travailler, et que du coup, on rebondissait sur cette revendication de ne pas rentrer dans la privatisation qui était le cas sur le site Mono.
Non. Alors, pas du tout. Hein. Ce qui a été proposé, ce sont des contrats stables, c'est-à-dire que nous avons redégagé des moyens d'emploi statutaire pour arriver à combler ça.
Non, donc non, des nouveaux CDI
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Non, on n'a pas recruté des contractuels et on n'a pas eu recours à des prestations fournies par une société externe, comme c'est le cas sur Mono.
D'accord. Et ça va, vous pensez que ça va continuer comme ça ? C'est la ligne, en tout cas, que souhaite garder la direction de l'ENS ?
Bah, écoutez, nous avons un certain nombre de ces personnels. Il n'y a aucune raison que tout d'un coup, on leur dise « vous quittez la maison ». Donc, bien évidemment, on va continuer dans ces conditions-là.
Alors, il faut bien dire que le froid hivernal a un petit peu, effectivement, contribué à faire oublier les fastes de la rentrée et les fastes du Total Forum, puisque, avec décembre, c'est le temps de Noël qui arrive et les vacances. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur Samaru, du 23 décembre 2011 ?
Le 23 décembre 2011, oui, bien sûr, je m'en souviens. Et il va fortement marquer ma carrière, je pense.
Alors, simplement pour préciser à nos auditeurs, le 23 décembre 2011, c'est le jour où nous avons tous reçu un autre mail. Mais c'est aussi le jour où Le Monde publie un article. Et donc, ce mail et cet article évoquaient l'annulation par le Conseil d'État du décret du 10 décembre 2009, décret qui donc annonçait le regroupement des deux écoles de Lyon, site Mono, site Descartes, sciences, lettres et sciences humaines, pour ne former plus qu'une seule école, l'ENS de Lyon. Alors la fusion avait été annoncée, on l'a fêtée, on en a beaucoup parlé, pas plus tard que l'année dernière avec M. Faron ici. Or, c'est un vice de procédure qui a amené à cette décision. Mais il faut rappeler qu'au tout début, le Conseil d'État avait été saisi dès le 22 décembre 2009 par trois personnels de l'école. Et donc le problème qui était au cœur de cette annulation et qui était au cœur de cette demande concernait le fait qu'on n'avait pas consulté des comités techniques paritaires des deux écoles. Alors, moi qui suis simple et jeune étudiante ici, d'abord, on y comprend peu de choses. Ce mail, finalement, qu'est-ce qu'il disait ? Est-ce que l'école continuait ? Est-ce que l'école continuait pas ? On comprenait que ça continuait quand même, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'a dit le Conseil d'État ? Le Conseil d'État a dit « il n'y a pas de remise en cause du fondement de la réunion des deux écoles ». C'est-à-dire la création de cette nouvelle école n'est pas remise en cause dans son fondement. Par contre, la procédure qui a conduit à créer cette fusion a connu deux vices de forme. Nous vous donnons donc, c'est le Conseil d'État qui parle là au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous vous donnons jusqu'au 30 juin 2012 pour rectifier cette procédure. Si ça n'a pas été fait, eh bien au 30 juin 2012, effectivement, nous serons obligés d'annuler totalement le décret de création de cette nouvelle école. Et vous l'imaginez très bien, le 1er juillet, ça veut dire que cette école n'a plus d'existence juridique. Donc vous imaginez tout de suite que nous n'en arriverons pas là et que nous ferons tout ce qu'il faut pour le rectifier. Alors quelles ont été les devises de procédure qui ont été mises en cause ? C'est tout d'abord que le comité technique paritaire, qui est un comité qui réunit donc des représentants des personnels, n'a pas été consulté pour lui demander « Êtes-vous d'accord sur un projet de réunion des deux écoles ?» Hein, on aurait dû faire ça dans les deux établissements, ça n'a pas été fait. Par contre, ce comité a été consulté par la suite sur le projet de statut de la nouvelle école. Le deuxième vice de procédure, c'est au niveau des deux conseils d'administration qui devaient eux aussi se prononcer « Êtes-vous d'accord sur le projet de réunion des deux écoles ?» souci de favoriser la fonctionnalité et de ne pas rendre les procédures trop difficiles, les deux conseils avaient été réunis le même jour, dans un même lieu, c'était d'ailleurs dans le grand amphithéâtre du conseil du Grand Lyon, et les deux présidents étaient présents, les présidents de chacune des deux écoles, des deux conseils d'administration, et c'est un seul des deux présidents qui a présidé la séance. Les deux conseils ont voté séparément.
Qui était la personne donc, qui présidait la séance à ce moment-là ?
C'était Tristan Lecoq, qui était le président du conseil d'administration de l'ENSLSH, en présence de Jacques Vincent, qui était président du conseil d'administration de l'ENS Sciences. C'est Tristan Lecoq qui a présidé la séance. Les deux conseils, les deux assemblées ont voté séparément, mais sous la présidence d'un seul président, et c'est ça qui a été reproché, c'est que la procédure eût voulu que les deux conseils, en s'exprimant séparément comme ils l'ont fait, mais le fassent sous leur présidence respective. Voilà. Bon, alors je tiens à dire que tout ça, c'est une procédure qui a été mise en place, et bien évidemment en total accord avec le ministère de tutelle. À l'époque, nous n'étions pas des établissements autonomes. Donc toute la procédure est fusionnée deux établissements, vous imaginez bien qu'on ne se lance pas à le faire comme ça. Ça a été quand même suivi par les services juridiques du ministère. Bon, ben là il y a eu une faille que le service juridique du ministère n'a pas su détecter, effectivement. Je tiens à souligner que ça n'a pas été la seule, puisque si vous vous souvenez bien, à la même époque, il y avait le passage aux compétences élargies. Et tous les établissements qui sont passés aux compétences élargies au 1er janvier 2010, alors tous, pas que l'ENS de Lyon, tous les établissements qui sont passés à ce moment-là ont vu leur décret d'accès aux compétences élargies annulé parce que le ministère ne leur avait pas demandé aussi de faire valider ça par leur comité technique paritaire. Voilà.
Mais j'entends bien donc vos explications et merci beaucoup de nous les apporter avec autant de précision. Mais quand même, le fait que trois personnels de l'école saisissent le Conseil d'État, est-ce qu'il n'y a pas un déficit de communication, de débat, d'échange au sein même de l'école autour autour de cet événement-là, mais l'année suivante autour du passage de l'INRP à l'IFE, enfin, est-ce que... Vous ne pensez pas
alors,
là ?
Tout d'abord, vous mentionnez trois personnels. En fait, ils sont quatre, voire même cinq, parce qu'il y a eu plusieurs recours. Même considérons qu'ils soient cinq. Vous savez combien il y a de personnel sur l'école ? Avec les étudiants, ça doit faire à peu près 3000. Alors, s'il y a un déficit de communication et que seuls 5 sur 3000 s'en plaignent, là, je me pose quand même des questions.
Bon. Oui, mais la démocratie ne doit pas être la tyrannie de la majorité. Si ces cinq-là ont quelque chose à dire, est-ce qu'on ne peut pas les écouter ?
Ah, mais je ne dis pas qu'on ne les a pas écoutés. Et d'ailleurs, ces cinq-là, ils devront reconnaître qu'il y a eu un certain nombre d'assemblées générales dans lesquelles ils étaient présents. Nous avons tenu, Olivier Faron et moi-même, plusieurs assemblées générales. Nous avons même tenu une réunion, je m'en souviens très bien, pour commencer à discuter ce que seraient les statuts de la nouvelle école. Et je peux même vous dire où elle se tenait. Elle se tenait dans la salle des thèses de l'ENS. Tous ces gens étaient présents. Donc qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui que tout a été tenu secret, ce n'est pas vrai. Et je pense là encore que si c'est 5 sur 3000, ça veut dire... Alors je veux bien admettre que tout le monde ne s'exprime pas ou ne veuille pas s'exprimer... Mais vous en conviendrez que c'est quand même une très grande minorité qui, soi-disant, n'a pas été consultée. Bon, moi je pense que le plus important maintenant, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Parce que le 30 juin, c'est après-demain le 30 juin. Nous ferons ce que nous recommandera le Conseil d'État. Aujourd'hui, nous ne le savons pas encore. Le Conseil d'État nous dit simplement qu'il faudra rectifier la chose. Il n'a pas encore donné les lignes de conduite pour faire la rectification. Et je tiens à souligner qu'en fait, la demande du conseiller d'État s'adresse au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est lui qui est chargé de remettre de l'ordre dans la procédure. Aujourd'hui, nous attendons de voir qu'est-ce qui va nous être proposé. c'est bien évident que nous le suivrons. Notre souci, c'est avant tout que cette école vive, qu'elle puisse exister. Et là encore, je pense que le fait de les avoir réunis, ces deux écoles, c'était une chose que nous devions faire, nous l'avons fait et nous le garantirons.
Donc est-ce que pour l'instant, la politique, c'est de continuer à avancer, de tenir la barque et puis d'attendre pour la suite?
Mais alors attendre pour la suite, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais tenir la barre, oui, bien évidemment. Et ça sera surtout de faire en sorte qu'au 1er juillet, cette école existe.
Alors justement, vous parlez du 1er juillet 2012. Nous voilà prêts à aborder cette nouvelle année, après avoir fait un tour, je crois, assez complet des grandes questions de l'année 2011. Alors tout d'abord, avant de parler des projets comme les IDEX ou ceux dont vous souhaiterez nous parler ensuite, je voudrais revenir sur la carte de vœux de l'ENS qui est arrivée sur nos boîtes mail, parce que vous l'aurez compris, il se passe énormément de choses sur ces boîtes mail. Alors, il se murmure dans les couloirs que la jolie carte de vœux, parce qu'elle est jolie cette carte, elle est belle, il y en a même 4, aurait coûté quand même quelques 4000 euros. Dites-moi, monsieur Samaru, l'ENS ne connaît donc pas la crise?
Vous connaissez le budget de l'école?
Eh bien, parlons-en.
130 millions. Alors, j'ai pas ma calculette, vous faites le calcul, 4000 divisé par 130 millions, et vous me direz ce que ça représente. Alors, pourquoi est-ce qu'on a quand même mis 4000 euros? Parce que, comme vous l'avez dit, cette carte, elle a marqué, elle est originale, et je tiens à vous dire qu'en dehors de l'école, elle a été extrêmement bien perçue. Je crois que cette école, si elle veut vivre, il faut aussi qu'elle se fasse connaître. Il faut qu'elle soit originale. Et c'est pas vous, étudiants, qui me direz qu'il faut pas que cette école soit originale. Et je pense que vous y contribuez très largement.
Alors, juste, peut-être qu'il faut que cette école soit originale, mais je crois aussi que quand on est arrivé là, on nous a tous répété, et on est tous les premiers à en être fiers et à vouloir que ça continue, que l'ENS est une grande école de recherche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand même, avec cette carte de vœux, avec cette stratégie, on n'est pas rentré dans une école qui fait plutôt du commerce de la recherche ?
Non, parce que je ne vois pas en quoi, au travers de cette carte de vœux, vous pouvez dire que cette école fait du commerce de sa recherche. Si vous regardez le principe sur lequel elle est construite, c'est avant tout, nous avons voulu mettre en avant les hommes et les femmes qui la font vivre, cette école. Et vous remarquerez que tous les secteurs d'activité de l'école sont représentés dans cette carte-là. Et si nous avons voulu faire cela, c'est parce que avant tout, nous avons voulu mettre en avant les gens qui la font fonctionner à tous les niveaux de fonctionnement de cette école. C'est leur école et il était normal que nous les mettions en valeur, ces gens-là.
Maintenant, abordons les grands projets de 2012. Essayons de dresser les grands axes qui vont nous guider donc jusqu'en 2013. Bien sûr, une fois que le décret sera remis d'aplomb, alors que va-t-on faire ?
Ah, on va faire plein de choses. Alors je sais, ça affole toujours un peu. On dit cette école, elle est toujours en mouvement. Oui, elle est toujours en mouvement, mais je crois que c'est nécessaire. Cette école, elle vit, elle est porteuse d'une image, elle est porteuse de valeurs. C'est une grande école publique, c'est une grande école de la République et elle ne peut pas s'endormir. Et vous savez qu'il se passe beaucoup de choses dans l'évolution du paysage universitaire un peu partout en France. Et c'est pour ça que nous considérons que cette école ne peut pas rester à l'écart de ces grandes évolutions. Elle a des valeurs à porter, comme je l'ai dit. Et elle se doit effectivement d'être animatrice d'un certain nombre de grandes structurations qui sont en train de prendre place. C'est le grand projet IDEX, c'est le projet Campus. Ça va être un certain nombre de projets internes à l'école. Et je crois que, vous savez, le jour où il n'y a plus de projet, on est mort. Et ça a été dit par plein de gens, c'est que souvent, la vieillesse, c'est l'antichambre de la mort si on n'a plus de projet.
D'accord, alors justement, parlons d'un projet, par exemple les IDEX, puisque c'est un projet qui, quand même, ne fait pas totalement consensus, même si c'est peut-être... une dizaine de personnes sur des milliers. Alors, 2012, l'année de lancement des IDEX. Qu'est-ce qui va se passer concrètement à l'ENS dans le paysage universitaire lyonnais?
Bon, alors tout d'abord, le projet IDEX, il est déposé. L'ENS a été assez mise en avant dans ce projet-là. C'était même une certaine demande de la part du jury international qui avait évalué la première... candidature. Nous allons être auditionnés devant le jury international le 31 janvier. Nous devrions connaître les résultats les tout premiers jours de février. Personnellement, je suis très confiant parce que je pense que nous avons apporté des éléments très originaux dans ce projet. Et je dois dire que c'est même l'ENS qui a apporté des éléments très originaux. En fait, qu'est-ce qui est très original dans ce projet-là? C'est quand même l'objectif de rapprocher le secteur des grandes écoles et des universités. Et je dois dire que si quelqu'un, ou du moins si un établissement pouvait proposer ça, c'était cet ENS. Quand les deux ENS se sont installées sur Lyon, il y en a une en 87, l'autre en 2000, elles ont immédiatement créé une osmose très étroite avec le milieu universitaire. Et tous les diplômes que nous délivrons, les masters, tout ça est conduit avec nos partenaires universitaires.
Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs Université de Lyon. Enfin, c'est voilà, déjà une réunion
voilà,
qui existe.
Voilà, la recherche est extrêmement intriquée. Bon, il faut qu'on aille plus loin que ça. Vous le savez, nous accueillons beaucoup ce qu'on appelait avant les auditeurs, que je ne veux plus appeler les auditeurs, et qu'on appelle les étudiants de l'ENS maintenant. Ces gens-là viennent pour la plupart de l'université. Je pense que c'est là une démonstration d'une très large ouverture de cette école. Il faut que ça se matérialise dans un projet où, effectivement, le choix initial qui est d'aller dans une grande école comme l'ENS ou d'aller dans une université, ce choix ne doit pas créer un clivage à la fois intellectuel mais sociétal aussi. Et cette école est porteuse d'une valeur qui est de dire c'est une école de la République, elle doit rassembler beaucoup plus. Alors elle continuera d'exister, l'ENS, parce qu'effectivement elle a des missions spécifiques. Mais il faut effectivement qu'elle soit plus proche du monde universitaire et des autres écoles aussi que nous avons sur Lyon, sur Lyon et Saint-Étienne, notamment des écoles d'ingénieurs. Et en fait, le projet IDEX est beaucoup basé là-dessus. C'est de replacer l'étudiant au centre du dispositif. Pourquoi nous voulons faire ça? C'est pour que l'étudiant qui va arriver sur le site de Lyon-Saint-Étienne s'y retrouve beaucoup mieux. Un, qu'il ne soit pas perdu dans ses parcours de choix entre grande école et université. Deux, c'est que nous lui offrions des parcours qui lui permettent d'avoir des formations très complémentaires, qui vont lui permettre d'affronter toutes les ruptures qu'on va connaître dans l'évolution du monde social et économique. Ça, actuellement, ça n'existe pas. S'il y a un site où nous pouvons faire ça, c'est Lyon-Saint-Étienne. C'est ça la base du projet IDEX, c'est replacer l'étudiant au centre du projet pour qu'il ait là un dispositif où il puisse acquérir toutes les compétences qu'il veut, se forger lui-même un parcours de formation et d'éducation comme il le souhaite.
Mais donc j'entends bien ce que vous dites par rapport au parcours des étudiants, mais les IDEX, c'est aussi un grand projet politique. Et quand on dit que l'objectif d'un IDEX, c'est de faire un pôle de compétitivité, si on pense par exemple à la région, vous dites Lyon-Saint-Étienne, mais il y a aussi Grenoble. Mmh. Alors par exemple, quel va être l'objectif? C'est d'être plus gros que celui d'à côté? C'est de manger celui d'à côté? Et à l'intérieur même de l'IDEX, quel va être l'objectif de l'ENS? De s'affirmer comme le moteur principal, d'attirer les étudiants ou pas? Enfin, je caricature un peu, mais oui. C'est un ensemble de questions qui se pose en tout cas dans les médias.
Oui, vous avez le droit, c'est tout à fait normal que vous posiez ces questions. En fait, ce n'est pas la question d'être plus gros. Je pense que là, big is not beautiful, obligatoirement.
Oui, mais compétitivité, comme on dit. Aujourd'hui, ça veut quand même bien dire ça.
Compétitivité, c'est pas forcément en taille. C'est être réactif, c'est être bon, c'est la qualité aussi. Hein. Être compétitif, c'est être de qualité. Donc c'est ça que nous voulons jouer. Quand on veut dire compétitif, l'objectif de la compétitivité, c'est que des étudiants et des chercheurs qui sont quelque part dans le monde, mais je pense surtout en Europe, ils disent « c'est là que je veux aller ». Et le « là où on voudrait qu'ils viennent », c'est sur le site de Lyon-Saint-Étienne. C'est ça la compétitivité.
Mais est-ce qu'un chercheur doit être compétitif dans sa vie?
Oh ben, je pense que oui, c'est un métier. Attendez, c'est comme un sportif de haut niveau, un chercheur. Le chercheur, par la nature même de ce qu'il fait, il faut qu'il soit compétitif. Je suis très surpris que vous me posiez cette question parce que c'est un domaine. D'abord, le chercheur, on le sait très bien, il remet en permanence en question ce qu'il fait. C'est pour ça que c'est un métier très difficile. Souvent, d'ailleurs, c'est les autres qui remettent en question ce qu'il fait. C'est encore plus difficile. Donc, on est dans un système qui est compétitif. Et pourquoi ? C'est parce que le chercheur lui-même cherche toujours à se dépasser et à faire progresser l'objet même de ses recherches. Donc,
oui,
on est dans un système
compétitif. Tout ça prend du temps. Et en plus, j'irais même plus loin. Non seulement les recherches prennent énormément de temps, parfois toute une vie, et en plus, ça n'a pas d'utilité économique directe. Donc, est-ce que...
Je suis très surpris de ce que vous me dites.
Ben, un chercheur, il n'est pas là pour vendre des choses ou vendre des produits.
Mais attendez, vous avez un casque sur la tête de très haute technologie. C'est qui a inventé ça ? Il y a bien eu des chercheurs à un moment donné.
Oui, non, mais ça n'a pas d'utilité économique directe dans la première sphère économique, enfin la première sphère de production. C'est à long terme justement qu'il faut voir tout ça. Avant d'inventer le casque, il y a eu des recherches en maths, en physique,
oui.
Et
ah,
il y a eu
des
applications.
On est tout à fait d'accord, on est tout à fait d'accord. Et j'ai toujours défendu qu'une école comme la nôtre, elle a pour mission première de faire progresser la connaissance. Progresser la connaissance. Mais si, chaque fois que nous faisons progresser cette connaissance, nous découvrons des systèmes en rupture qui, effectivement, peuvent être transposés, transférés, comme on dit, pour faire des nouveaux développements technologiques, il faut que nous saisissions cette occasion. Mais c'est pas... Ça, c'est la deuxième mission qui vient en conséquence. Et j'ai l'habitude de dire aux chercheurs, à nos chercheurs, vous êtes là pour chercher, pour découvrir. Si vous découvrez, on verra si on peut en faire quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément nous qui devons en faire quelque chose. Mais je pense que même vis-à-vis de nos concitoyens qui payent les impôts qui permettent à un établissement comme le nôtre de vivre, si vous leur expliquiez, bah, nous sommes là simplement pour la beauté de la chose et puis éventuellement la progression dans les découvertes en virologie, en infectieux, on n'a pas du tout envie que ça vous serve, vous pensez que c'est un discours qu'on peut tenir ?
C'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ça demande du temps.
Ah, ça demande du temps,
et
oui.
Et qu'on n'est jamais sûr, quand on commence de chercher, qu'on va trouver.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc est-ce que c'est compatible avec un principe de compétitivité ?
Ah non, mais alors là, attendez, parce que vous passez le mot compétitivité uniquement sur la compétitivité économique. Économique. Il n'y a pas que la compétitivité économique.
D'accord.
La progression de la connaissance, il y a une forme de compétition dans ce domaine-là. Et allez demander à nos chercheurs les plus fondamentalistes dans l'école, bah, ils ont envie de trouver avant le collègue qui se trouve à l'autre bout du monde et qui travaille sur la même chose qu'eux. Mais c'est tout à fait naturel, ça. Et je dirais que c'est une forme d'émulation de l'esprit. C'est aussi à la base d'un caractère émulateur, stimulant. Alors ne mélangeons pas, parce que justement, on a toujours un peu le biais assez pervers de ne voir là-dedans que le côté économique de la chose. Non, il n'y a pas que ça. Mais d'un autre côté, ces développements économiques, il ne faut pas les perdre de vue. Sans ça, nos concitoyens ne seraient peut-être pas forcément d'accord à continuer à soutenir ce que nous faisons, si c'est simplement pour la beauté de la connaissance.
D'accord, eh bien, merci beaucoup donc, pour avoir accepté de préciser ce terme. Et pour finir, peut-être la plus importante des questions concernant 2012, est-ce que vous savez déjà ce que vous ferez le 22 mars ?
Non.
Eh bien, le 22 mars, c'est la première journée organisée par Transistor, le festival de la radio. Et j'espère que vous y serez, puisque vous êtes cordialement invité.
Alors, je vais tout de suite vous dire, c'est que je n'ai pas la mémoire des dates. Vous venez de vous en rendre compte. Par contre, je connais l'événement à un point tel que hier matin, j'ai pris la décision d'accorder une subvention exceptionnelle pour cette opération.
Eh bien, merci beaucoup. Et donc, chers auditeurs, vous l'aurez compris, nous vous attendons déjà nombreux le 22 mars pour parler donc, de la radio et des auditeurs de radio. Merci beaucoup à M. Samaru donc, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir éclairé pour nous les mystères de 2011 tout en dévoilant déjà 2012. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Chers auditeurs, Anormal, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez écouter sur www.transistor.fr les émissions de Présidence, de 20 minutes d'histoire, et même Il y a une vie après Normal avec Yannick Blanc. Bonne continuation sur notre site et bonne journée à vous tous.